9h-10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue pour la dernière émission de la saison.
Ben
si, mais De Funès sera au générique. Louis De Funès, génie comique adulé par 4 ou 5 générations de Français, qui fait rire encore les enfants avec des films tournés il y a un demi-siècle.
Ça continue,
et De Funès se voit consacré à la Cinémathèque française à Paris, une formidable exposition avec une multitude de documents, extraits de films, affiches, costumes, décors, la déesse de Fantomas et même la Deux Chevaux du Cornio.
Non, si. Oh!
L'expo ouvre le 15 juillet, sera visible jusqu'en mai prochain. Le commissaire de l'exposition, Alain Kruger, va venir nous en parler.
J'en ai trop dans la matinée!
Mais ce n'est pas tout. D'abord, avec le sociologue Jean Viard, on va revenir sur l'événement politique de la fin de la semaine. Marseille, avec Michel Rubirola qui bascule à gauche et met fin à 25 ans de règne de Jean-Claude Godin.
Maintenant, foutez-moi le camp, mais vite!
Et puis la journaliste de l'Obs, Violette Lazare, nous racontera une incroyable histoire de vendetta. C'est le titre de son livre avec Marion Galland, l'histoire de la vengeance des héritiers du gang corse de la Brise de Mer contre ceux qu'ils tiennent pour les assassins de leur père. Voilà le sommaire.
Europe 1, c'est arrivé demain.
15h hier à la mairie de Marseille, Jean-Claude Godin, qui dirige la ville depuis 1995, vient de remettre son écharpe tricolore à une femme médecin de la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, Michel Rubirola.
Le clanisme, le népotisme, le clientélisme ont vécu. Ce projet, c'est celui d'une ville plus verte, plus juste et plus démocratique.
Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Sociologue, éditeur, observateur engagé, vous avez mis les mains dans le cambouis de la politique marseillaise, vous avez été l'un des vice-présidents de la métropole. Qu'est-ce que ça représente, vu de Marseille, la prise de l'hôtel de ville par cette équipe du printemps marseillais?
Ah ben c'est un grand événement, si vous voulez, parce que je dirais, on pourrait presque dire c'est un changement d'ambiance, si vous voulez. Y compris parce que je pense que cette génération politique, on la voit ailleurs, on pourrait presque les définir par leur façon de s'habiller, de vivre. Je dirais c'est des gens sympas, normaux, qui sont pas des cassides de la politique, qui en ont fait. Michel a été élu avec moi en 2008, donc si, dans une mairie de secteur. Ouais. Mais donc, si vous voulez, c'est des gens qui ont été à côté de la politique, qui n'en sont pas rentrés dans les systèmes, et qui, au fond, si vous voulez, depuis un moment, il faut dire aussi, on était à la fin du système Godin. Si vous voulez, c'est un système qui a été peut-être plus dynamique il y a 20 ans, mais vraiment, les deux derniers mandats, c'était la fin d'un système. Il s'est laissé tourner. Et si vous voulez, dans une ville qui est très fracturée, faut dire, Marseille, c'est très grand. Pour donner une image aux gens, c'est grand comme Paris et les Hauts-de-Seine. Hein. Donc c'est immense. Et si vous voulez, c'est une ville où au fond, c'est comme s'il y avait, disons, la Seine-Saint-Denis dans Paris. C'est-à-dire qu'il y a la ville du Nord, où il y a à peu près 300 000 personnes, qui est une ville très populaire de HLM. On a tous les images dans la tête, les tours, etc. C'est là où il y a le trafic de drogue, etc. Bon, c'est les milieux populaires. Il y a beaucoup d'immigrés récents, assez récents. Et puis il y a la ville du Sud, qui est une ville riche. Hein. Attention, à Marseille, il y a des riches et des pauvres, qui très riches et très pauvres, si vous voulez. Il y a les deux. Il y a la ville du Sud, qui est une ville, même Michel Rubirola a été élu dans le 4-5, disons c'est un quartier, j'allais dire un peu bobo, il y a beaucoup de nouveaux habitants, il y a des fonctionnaires, etc. Mais surtout, ils ont gagné le 6-8, c'est-à-dire en gros le grand arrondissement de la droite, là où était élu Jean-Claude Godin, qui a été gagné par Madame Fortin, Olivia Fortin. Et c'est important parce qu'elle est associative, si vous voulez. C'est une militante engagée, elle vient pas d'un parti politique, c'est une grande famille marseillaise, hein. C'est la famille Rastoin qui a été une famille considérable de l'histoire de la ville, donc il y a quand même de l'histoire derrière tout ça. Voilà, donc je crois que c'est une rupture, c'était un moment de liesse. Je pense que même un certain nombre de gens qui n'ont pas voté pour eux, si vous voulez, sont assez contents, cette nouvelle génération, j'allais dire, c'est idiot de dire ça, l'expression vrais gens, mais c'est un peu ça, quoi. Il y a des professionnels, hein, Benoît Payan était déjà dans la politique, oui. Le premier adjoint, etc. Mais il y en a plein, voilà. Et puis une chose, je finis, mais si vous voulez, c'est évidemment le point de démarrage, ça a été le drame de la rue d'Aubagne, c'est-à-dire que si vous voulez, cette rue où deux immeubles se sont effondrés à cause d'une gabegie assez catastrophique, aussi bien sans doute des bailleurs, je suis pas juriste, mais enfin, on voit bien que ça a été une catastrophe. Et si vous voulez, ça a servi de booster pour dire ça suffit.
Oui, ça a été un déclic ou un révélateur pour former le printemps marseillais, l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. C'était en novembre 2018. Hein.
Ben oui, parce que si vous voulez, d'un coup, on s'est rendu compte que c'est très bien de développer la croisière, 2 millions de passagers, c'est très bien de revers le centre. Moi, je me suis fait élire pour transformer le vieux port. Donc, on peut pas dire qu'on n'a rien fait. On a fait le Mucem, on fait des voies rapides, on a fait le contournement, etc. Donc, la ville se développe, sauf que la ville, il y a une partie de la ville qui se développe et une autre qui se développe pas. Et si vous voulez, le problème de Marseille, c'est qu'avec ce système PLM, on est élu par une partie de la ville. Et le seul grand maire depuis la guerre, ça a été Robert Vigouroux, parce que Robert Vigouroux d'abord était médecin, comme Michel Rubirola, excusez-moi, et je dis Michel parce que je la connais un peu, mais j'aurais devrais pas, et donc si vous voulez, et donc du coup chaque maire au fond fait d'abord pour ses quartiers, son électorat, et je pense que cette loi PLM est une catastrophe, et que si vous voulez l'intérêt c'est donc de réunifier la ville, regardez, prenez la carte des transports et faire une analyse de la densité des populations, c'est absolument incroyable, les quartiers nord, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas le métro, il vient à peine d'arriver et encore pas partout. Donc, si vous voulez, il y a un déséquilibre des équipements, des modes de vie, etc. Alors que c'est une ville magnifique. Il y a 32 kilomètres de rivage et il faut faire attention. Les quartiers nord de Marseille sont au bord de la mer, comme les quartiers sud, si vous voulez. On voit la mer. Donc, c'est pas comme s'il y avait un arrière-cour, si on peut dire, horrible. Les quartiers nord, c'est l'ancien quartier des Bastilles bourgeoises. Oui. Donc, si vous voulez, c'est qu'on les a délaissés. C'était pas des territoires voués à la pauvreté et à la misère.
Loi PLM inventée par celui qui était maire de Marseille, Gaston Defferre, prédécesseur de Robert Vigouroux, justement pour assurer des réélections à sa main, et loi qui a été étendue pour pas que ça se voit trop à Paris et à Lyon. Voilà, ça c'est le point d'histoire de la loi PLM en 83 et qui a donné lieu effectivement à cette élection à 2 degrés avec des électeurs, avec des villes qui peuvent basculer dans un sens ou dans un autre sens qui est forcément de majorité électorale. Hein. On est d'accord là-dessus, Jean Viard.
Oui, mais si vous voulez, il faut bien se rappeler quand ça a été fait, c'est parce que les communistes étaient le premier parti de la ville, ce qu'ils ont été depuis la libération, et si vous voulez, à l'époque, ils avaient 37% des voix, et Defferre n'en avait que 24. Donc si vous voulez, on a mis tous les communistes dans le même secteur, et ça a permis d'une certaine façon de gouverner la ville en étant minoritaire. Bon, mais ce qui est vrai aussi, c'est la loi PLM, elle a des inconvénients, elle a aussi des avantages, c'est qu'elle oblige à ce qu'il y ait des élus qui viennent de toute la ville. Quand on est une ville, si vous voulez, Lyon, il y a 400 000 habitants, en gros, c'est socialement pas homogène complètement, mais quand même, ils ont nos quartiers nord, je dirais, ils seraient à Villeurbanne ou ils seraient encore plus loin. Parce que, si vous voulez, c'est Lyon, vous savez même pas que vous sortez de Lyon et que vous êtes dans une autre ville, parce que les villes sont continues. Bon, à Paris, il y a pas la pauvre, les quartiers nord, ils seraient dans le département d'à côté. Donc, si vous voulez, on a tout ça. C'est pas idiot ça, mais à ce moment-là, il faudrait que le maire soit élu au suffrage direct. C'est-à-dire, si vous voulez, on est un maire qu'on élise, et puis après que les secteurs soient représentés. Pourquoi pas? Ça évite quand même qu'un groupe social domine la ville. Bon, mais si vous voulez, l'enjeu maintenant, c'est effectivement de recoudre cette ville. Et si vous voulez, d'abord c'est une ville extrêmement polluée. Alors, c'est comme tous les ports. Comme si on est au bord de la mer. Ben, forcément, j'allais dire, le centre est au bord de l'eau. Donc, on ne peut y aller que d'un côté. Donc, si vous voulez, c'est forcément des villes très embouteillées, parce que un centre de ville normal, je dirais qu'il y a 4 côtés pour y accéder. C'est normal, c'est le centre. Un centre au bord de mer, ben, forcément, il y a moins de rues pour aller au milieu. Donc, c'est toujours plus compliqué. C'est vrai à Nice, c'est vrai à Marseille, c'est vrai au Havre. Bon. Mais à Marseille, c'est particulièrement fort. En plus, c'est une ville en pente. Donc, c'est vrai que du coup, les déplacements sont pas faciles. Donc il y a tout ça qui joue. Et si vous voulez, la question, elle est aussi, j'allais dire, une question d'intégration dans les débats actuels. On l'a bien vu dans ce qu'a dit Michel Rubirola dès le début. Tout de suite, elle a insisté sur la diversité de la ville, sur le fait que tout le monde y avait sa place. Et c'est vrai que les majorités précédentes, je leur avais dit une fois, ils étaient fâchés. Je leur ai dit, vous êtes un peu une majorité de petits blancs. Alors c'est peut-être désagréable de dire ça, mais c'était fondamentalement ça. C'était des gens des quartiers sud, des milieux, des couches moyennes urbaines, très traditionnellement marseillaise. Jean-Claude Gaudin, qui est au demeurant un homme pas désagréable humainement, mais je veux dire, c'est clairement ça. C'est un enseignant des écoles privées, d'une famille, son père, je crois, était maçon à Mazargues. C'est typiquement ces gens-là qui ont tenu la ville. Et beaucoup des élus venaient du Sud pour gouverner toute la ville, si vous voulez. Et donc, la question, c'est qu'effectivement, comment est-ce qu'on recoue ça? Et au fond, il y a deux enjeux à court terme fondamental, si vous voulez. Il y a effectivement le logement, bien sûr. Ça va être très compliqué. Paris a mis très longtemps à lutter contre l'habitat insalubre. Ça coûte horriblement cher. Et puis, il y a la question des écoles, qui ont été très défavorisées. L'école privée a été extrêmement favorisée au détriment de l'école publique. Donc là, si vous voulez, il y a deux enjeux de très court terme, mais en même temps, il faut pas se leurrer. Marseille est une ville pauvre. Marseille est une ville très grande. Donc, si vous voulez, moi, je me suis occupé des ordures. C'est incroyable comme ça coûte cher de ramasser les ordures dans une ville qui fait 32 kilomètres de rivage, si vous voulez. Je dirais que la tonne au kilomètre parcouru est très faible. Donc, c'est une ville pauvre où il y a effectivement une majorité de gens qui ne payent pas d'impôts. Donc, tout ça fait que la ville, l'avenir de la ville, c'est le cœur du projet politique des gens qui ont gagné. Mais c'est aussi, évidemment, la caisse. C'est toujours Madame Bassal qui a la caisse. C'est-à-dire, c'est le département qui a énormément d'argent. Oui. Et ce département a très peu investi dans la ville depuis longtemps.
Encore un mot sur Marseille, Jean Viard. Michel Rubirola, dans sa première intervention, on l'a entendu à parler de clanisme et de clientélisme. Est-ce qu'elle a raison d'en parler? Et si oui, est-ce que c'est possible d'y mettre fin comme elle l'a promis?
Bah écoutez, c'est un projet, une vision politique, et je pense que c'est bien le signe que le monde avec lequel elle est n'y appartient pas. Après, le clientélisme, c'est quoi? Si vous voulez, cette ville, elle s'est construite sur des migrants, des gens qui arrivaient. Et notamment, il y a eu trois grands-mères hein, à Marseille, trois grands médecins, et c'était Siméon Flessière, et puis après, effectivement, Robert Vigouroux et Michel Rubirola, j'espère, pour la ville. Et donc, si vous voulez, au fond, cette ville, il y avait des gens qui arrivaient. Et souvent, les gens, ils arrivaient par le port à l'époque. Aujourd'hui, on n'arrive plus par les ports. Donc, les choses ont beaucoup changé, parce qu'un port, c'est en fait un cul-de-sac aujourd'hui. Et donc, il y a alors qu'avant, on arrivait par le port, les gens qui voulaient, par exemple, partir aux États-Unis, une grande activité de Marseille, ça a été le trafic d'Italiens, si on peut dire, c'est-à-dire tout le long du 19e siècle, les Italiens arrivaient à Marseille, souvent le monsieur arrivait d'abord, il cherchait un petit boulot, ce petit boulot, une fois qu'il avait le petit boulot, il trouvait un petit logement, il faisait venir sa famille, ils économisaient les sous, et dès qu'ils avaient les sous, ils prenaient un bateau sur la Faber Line, qui était la ligne de New York. Bon. Et ces gens-là, bah, ils étaient pris dans des réseaux italiens, ils étaient pris effectivement, on leur trouvait du coup un boulot, ils adhéraient éventuellement à la CGT des ports, on leur trouvait effectivement un logement dans un quartier italien, et puis chaque vague s'est structurée par territoire, si vous voulez, les Arméniens sont allés à Beaumont, etc. Mais c'est parce que c'est une ville de l'accueil, c'est une ville où on est arrivé après tous les massacres des Arméniens bien entendu, les pieds noirs naturellement après la guerre d'Algérie, etc., les Grecs de l'île de Chaux. Donc si vous voulez, c'est une ville de réfugiés, c'est une ville de survivants. Donc et tous ces gens se sont structurés dans des réseaux. Alors ces réseaux ont été exploités par des forces politiques pour gouverner la ville, c'est pas Godin qui les a inventés. Ils étaient là d'abord à la fin de Siméon Flessière dans l'entre-deux-guerres, ça a été pris en main par Sabiani qui effectivement après être parti dans la collaboration. De faire après-guerre, c'est reconstruit sur une forme de clientélisme, peut-être un peu moins, pas très différent idéologiquement du précédent, évidemment, mais quand même sur des réseaux clientélistes qui se sont prolongés. N'oubliez jamais que Godin était l'adjoint de Gaston Defferre. Et donc, là, on est sur ça. Est-ce qu'on va complètement les supprimer? Le problème, j'allais dire, c'est que dans la ville, de la ville du sud, la ville du centre, enfin une partie du centre, la ville des gens qui ont des métiers, qui ont été à l'école, etc. Au fond, le clientélisme n'existe pas. Le clientélisme, souvent, au fond, c'est le système de survie des pauvres. On leur échange leur voix contre un petit boulot à la mairie, contre ce qu'on appelle les tombées de cabus avant Noël, contre un HLM pas cher. Et au fond, ça les aide à vivre. Si vous voulez, ça met de l'huile dans la pauvreté. Alors, comment on fait passer ce modèle-là à un modèle plus transparent? Ça va jouer aussi sur l'attribution des logements. Ça va jouer évidemment sur les emplois publics. Marseille, vous savez, une des choses surprenantes de ces élections, c'est le silence de Force ouvrière. Parce que c'est Force ouvrière qui a fait toutes les majorités. Alors, si vous voulez, il y a 11 000 employés municipaux, il y a aussi ceux du département, ceux de la région, l'hospitalière. FO tient ça très très fortement. Et donc, si vous voulez, FO soutenait le maire. C'était vraiment le bras armé du maire. Là, j'ai le sentiment que le FO a un peu laissé partir politiquement la situation, laissé les choses se faire sans intervenir. Ça aussi, c'est un grand enjeu. Là aussi, il y a du clientélisme et des réseaux très construits. Donc, le boulot, y compris en interne à la mairie, va être compliqué.
Jean Viard, sociologue des territoires, on marque une pause et on évoque aussi dans un instant un autre territoire du Sud et un homme qui en est issu et qui le revendique, c'est le nouveau Premier ministre, Jean Castex.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Europe 1, jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour Violette Lazare.
Bonjour.
Journaliste à l'Obs, vous signez avec Marion Galland qui travaille en Corse pour la radio RCFM, Vendetta, les héritiers de la brise de mer chez Plon. C'est un livre d'enquête sur une extraordinaire histoire corse, l'histoire d'un gang mafieux décimé par une série de règlements de comptes à la fin des années 2000, mais qui se trouve des héritiers. Trois des fils des bandits assassinés reprennent le flambeau de leur père et mûrissent une vengeance contre ceux qu'ils tiennent pour leurs assassins, histoire de destinée, de filiation que vous rendez vivante, humaine, complexe, avec des fils de truands qui n'avaient pas forcément vocation à devenir des truands. C'est vrai notamment pour l'un des personnages principaux de cette histoire, Christophe Guazzelli, qui a été un espoir du foot. Il avait signé un contrat pro au FC Nantes et que la mort de son père a fait basculer.
Oui, tout à fait. Pour nous, c'est ça. Ce qu'on voulait raconter, c'est à la fois tout un volet historique à travers l'histoire de la Brise de Mer, qui est le clan criminel qui a été le plus puissant pendant une vingtaine d'années. L'histoire des héritiers nous est venue à travers ce personnage, effectivement. Enfin, ce personnage, c'est pas un personnage, c'est une personne réelle, hein. Christophe Guazzelli, qui n'était pas du tout parti pour suivre les traces de son père, Francis Guazzelli, un des fondateurs de la Brise de Mer. Christophe Guazzelli, il commence à jouer au foot très tôt, il fait un stage, il est pris à Clairefontaine, c'est là où ont commencé tous les grands noms du foot. Ensuite, il signe plusieurs contrats, jusqu'à signer ce contrat pro à Nantes. Il aurait dû devenir un joueur de foot professionnel. Nous, en enquêtant, on est un petit peu tombé des nues, c'est-à-dire que c'est très caricatural. Son père meurt assassiné sur une route de Corse en novembre 2009. Et du jour au lendemain, à la mort de son père, c'est plus le même. On le reconnaît plus. À Nantes, ses entraîneurs, ses anciens coéquipiers disent « mais quand il est revenu, on l'a plus reconnu ». Et ça a été la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'il est revenu quelques mois. Et puis ensuite, il est reparti sur l'île. Il a renoué avec tous les fils d'eux. Des anciens fondateurs de la Brise de Mer. Et là, on ne va pas dévoiler la fin, mais il commence une conspiration pour venger les pères.
Une vengeance mûrie, préparée pendant 8 ans, et qui est passée par le banditisme, le trafic de drogue. Mais vous pensez que ce trafic était en quelque sorte destiné à alimenter, à financer cette vengeance ?
Oui, alors il faut faire attention parce qu'il y a aucun des... Pour l'instant, il est présumé innocent. Aucun de ces personnes n'ont été jugées pour l'instant.
Il n'est pas encore jugé, mais les charges qui pèsent sur lui sont assez lourdes. Il y a des SMS accablants notamment.
Les charges sont assez lourdes. Il ne les nie pas, en tout cas pour le moment. Voilà. Mais bon, c'est les précautions d'usage. Il faut quand même faire attention. On a enquêté, on a mené une enquête journalistique et on a aussi eu accès à un certain nombre de documents judiciaires. Donc, avec tout ce travail, on peut quand même aujourd'hui voir qu'il va commencer par être impliqué dans plusieurs trafics de stupes, ou par monter des trafics de stupes qui semblent n'être qu'une façon de financer cette vengeance, financer cette vendetta. Le plan va mettre 8 ans à être exécuté.
L'histoire est extraordinaire, les personnages le sont, l'enquête criminelle aussi, où l'on découvre que la police a sonorisé la cellule d'un des chefs mafieux du camp adverse, donc Jean-Luc Germani, et qu'il recevait beaucoup dans sa cellule, et qu'il était très bavard.
Voilà, alors ça c'est un autre volet de l'enquête, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé au fils de la Brise de Mer, mais on s'est aussi intéressé au clan adverse, parce qu'il y a une guerre qui a deux motifs, à la fois venger les pères, donc c'est une vendetta, donc c'est vraiment une guerre pour l'honneur, et une guerre aussi pour l'emprise, évidemment, économique, financière de l'île. Les structures touristiques, les marchés publics, voilà. Derrière cette guerre, il y a tout ça. Il y a évidemment des enjeux financiers très importants. Et en s'intéressant aux clans ennemis, donc des fils, on a eu accès à un certain nombre de documents, dont un document exceptionnel qui est une sonorisation de cellules.
Et c'est courant, ça ? Ou ça se fait exceptionnellement, vous le savez ?
Alors, dans les dossiers corps, ça arrive. Il y a des sonorisations de cellules qui sont faites, des sonorisations de parloirs. Il y a un débat juridique, hein, d'ailleurs, qui mérite d'être posé. C'est-à-dire, que est-ce que c'est une violation de la vie privée ? Quand quelqu'un est enfermé, est-ce qu'on a le droit de l'écouter ou pas ? Quand il est au parloir avec sa famille, est-ce qu'on a le droit de l'écouter ou pas ? Les avocats de Jean-Luc Germani, parce que c'est de lui dont on parle, c'est lui qui a été écouté dans sa cellule, ont attaqué et ont demandé l'annulation de ses pièces.
Mais on découvre un truand corse en prison qui, du fond de sa cellule, est incroyablement intéressé et impliqué dans la vie économique, financière de l'île, des marchés publics notamment. Enfin, rien ne lui échappe.
À travers cette sonorisation, c'est qu'en fait, elle dit tout ce qui ne se dit pas. Parce qu'en Corse, on ne dit pas grand-chose, surtout pas aux policiers, surtout pas lors des procès. Quand on assiste quand même à des procès corse, c'est souvent soit pas un mot, soit... Alors en général, les personnes qui sont jugées ont de l'humour. Donc c'est « Non mais moi, monsieur le président, j'élève des chèvres. Non mais moi, monsieur le président, à part mes vaches, je ne connais rien, etc. » C'est quand même souvent des blagues. Alors, tout le monde est très, très conscient hein, que c'est... Que tout ça, c'est des blagues, tout le monde rigole, sauf le président qui en général rigole pas beaucoup, l'avocat général. Et là, dans cette sonorisation, ce qu'on voit, c'est tout ce qui se dit pas. C'est-à-dire que on discute, on a un homme qui est présenté comme un des voyous les plus redoutés aujourd'hui encore, Jean-Luc Germani, qui parle avec Guy Orsoni, qui est lui plutôt jeune, qui a été mis en examen, condamné à plusieurs reprises, et il lui donne des leçons, en fait. C'est des leçons de... des leçons de voyoucratie, de grand banditisme, de « alors, moi je te conseille, si tu veux racketter le casino d'Ajaccio, t'arrives, tu t'assieds, tu dis rien, il suffit qu'on te voie et ils vont comprendre. Tu vas une deuxième fois, tu dis toujours rien. Et puis la troisième fois, ils comprendront et tu leur dis c'est tant par mois. » Voilà, donc il lui explique comment on rackette. Il lui explique aussi comment on infiltre des marchés publics. Les marchés publics, par exemple, pour la construction de l'hôpital d'Ajaccio. Il est en prison et il dit « j'assiste aux réunions ». Donc il a quelqu'un qui assiste aux réunions pour lui, pour savoir en gros combien va être donné à quelle entreprise. Et pour éviter justement ce détournement d'argent public, la préfecture a mis en place un Italien. Ils ont nommé comme maître d'œuvre un Italien.
Ils font le choix d'écarter une entreprise corse.
C'est ça, mais il y est quand même. Il est au courant de tout, les projets de rénovation du port d'Ajaccio. On parle aussi de la belle époque des cercles de jeux, où les cercles de jeux rapportaient plusieurs millions d'euros par mois. Alors il dit « ah bah ça c'est fini, malheureusement j'ai plus ça, maintenant j'ai plus qu'un million à peu près ». Enfin c'est surréaliste. Et tout ce qui est jamais dit est enfin dit.
Ouais, c'est extraordinaire. Autre personnage dans votre livre, Violette Lazare, Cathy. C'est une gardienne de prison, mère de 5 enfants. Elle est fascinée par les détenus et par les voyous et elle va jouer un rôle décisif dans le double assassinat de Porretta en décembre 2017, qui est le point de départ de votre livre.
Alors, je pense que c'est le personnage le plus intrigant de toute cette histoire. En tout cas, c'est celui qui nous a le plus intrigués. On a les fils qui vengent leur père. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais en tout cas, ils ont une histoire, ils ont une logique, ils s'inscrivent dans une histoire qui est millénaire. On a un voyou corse qui essaye d'infiltrer les marchés publics. Et puis, on a Cathy, qui vient de la région parisienne, qui s'installe en Corse parce qu'elle a besoin de changer d'air, qui devient gardienne de prison à Borgo.
Oui.
Borgo, c'est la prison du nord de la Corse, qui est une prison assez spéciale, hein, qui a été épinglée à plusieurs reprises par des rapports. C'est une prison où on a coutume de dire que c'est les prisonniers qui font la loi. Donc elle arrive là-bas et en fait on se rend compte à travers notre enquête que ça lui tourne complètement la tête. Elle fréquente des barons de la Brise de Mer, elle aime les polars, elle a l'impression de se retrouver dans un livre et on lui donne l'opportunité de jouer un rôle dans ce qui va être une vendetta qu'elle fantasme complètement sans se rendre compte des conséquences.
Donc il y a le projet de l'empoisonnement d'un détenu et puis surtout sur le lieu du crime, c'est elle qui donne le baiser de la mort puisqu'elle va embrasser.
Les fils ne savent pas à quoi ressemble leur cible, leur victime potentielle. Elle le sait parce qu'il a été emprisonné à Borgo et c'est elle qui propose. Elle dit voilà ce que je vais faire, je vais aller à l'aéroport, je vais les attendre et je vais leur faire la bise. Et au moment où je vais leur faire la bise, vous allez comprendre que c'est eux. Donc c'est elle en plus, elle fait même plus que ce qu'on lui demande.
Elle se jette au cou d'une des victimes. D'après la logique, l'engrenage que vous décrivez, on se dit que ça ne s'arrêtera jamais parce qu'il y a encore des orphelins qui, peut-être demain, qu'est-ce que vous pensez ?
Je pense que ce n'est pas terminé, moi, personnellement. Ce qu'on a pu voir aussi en enquêtant, c'est qu'il y en a qui s'en sortent. Enfin, il y en a qui choisissent un autre chemin, il y en a qui choisissent une autre voie. Après, c'est illusoire de penser que ça va s'arrêter.
Vendetta, les héritiers de la Brise de Mer, Violette Lazare, Marion Galland, chez Plomb. Merci.
Merci beaucoup.
D'être venu nous en parler.
Europe 1.
Dans un instant, Louis de Funès, consacré, honoré à la Cinémathèque française à Paris. Oui, dans une exposition très originale qui va ouvrir ses portes le 15 juillet et dont le commissaire de cette exposition, Alain Kruger, va nous parler dans un instant.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
La suite de cette arrivée demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Alain Kruger.
Bonjour.
Commissaire de l'exposition Louis de Funès.
Oui.
À la Cinémathèque, vous avez rassemblé plus de 300 documents, lettres, costumes, dessins, affiches et extraits de films et autres morceaux de DS ou de chevaux. Un extraordinaire parcours dans la galaxie de Funès qui commence par un couloir recouvert d'exclamations, d'interjections familières comme des bulles de bande dessinée. En voici la version sonore.
C'était très bien.
Vous vous foutez de moi là en ce moment.
De Funès, c'est l'une des clés de son succès encore aujourd'hui, Alain Kruger. C'est un personnage de dessin animé.
C'est plein de choses, parce que vous avez vu que dès qu'on franchit la porte de l'exposition, on a ces exclamations, mais juste avant, on a entendu ces cris d'animaux, ces bruits, ces bruits d'animaux dans l'ascenseur. Et oui, je crois que c'est un personnage qui nous parle immédiatement, parce que c'est un homme qui préférait les gestes et les exclamations aux mots.
Vous soulignez au début de l'expo à quel point il avait été marqué, influencé par les maîtres du burlesque. Et d'ailleurs, il rêvait à la fin de sa vie de tourner un film purement burlesque.
C'est-à-dire qu'il était passionné par ses maîtres du muet. Il paraît que dès qu'il jouait une scène, il la mimait avant. Donc il était tout le temps dans ce jeu muet et aussi, effectivement, un personnage d'animation entre l'oncle Picsou et revu par Tex Avery.
Alors, les gestes, le texte et... le corps, il joue avec son corps, il joue de son corps, il se moque de lui et il lui impose un rythme, une élasticité, un tempo. C'est l'une des sections de l'expo que vous avez conçue, le corps du délire.
C'est-à-dire que c'est un homme qui est un tout petit corps, c'est un tout petit bonhomme, d'une souplesse absolument démente et d'une grâce absolument démente. Parce que De Funès n'est absolument jamais vulgaire. Il est tout le temps dans le bondissement, dans le jaillissement, dans le... C'est une espèce de petit diable sauteur. Et je crois que de toute façon, ça, on le ressent en tant que spectateur. C'est peut-être aussi ce qui plaît tant aux enfants. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a un tempo qui le rend absolument intemporel. C'est pour ça qu'il est toujours là. C'est pour ça qu'on l'aime toujours.
Vous parlez de tempo. Au départ, il faut rappeler que c'est un jazzman, un pianiste de bar.
Oui, c'est un fou de jazz. Il jouait un peu comme Errol Garner, même si c'était, tout ça était à l'oreille, tout ça était autodidacte. Mais c'était merveilleux.
Art unique, écrivez-vous, jeu surnaturel, pile électrique et face atomique. Pourquoi jeu surnaturel? Il était vraiment en décalage des autres comédiens de l'époque et même ceux du registre comique.
Mais c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça avant et on n'a jamais vu ça après. Peut-être le seul à qui on reprochait exactement les mêmes choses, c'est Molière. Mais en dehors de Molière, non, mais c'est amusant quand même. C'est vrai qu'on faisait exactement les mêmes reproches à De Funès qu'à Molière. Et ce qui me frappe, c'est que c'est un acteur qui a une mobilité faciale absolument démente. Quand je dis face atomique, c'est parce que en une seconde, on a 10 expressions différentes. Dans Pouic Pouic, quand il est devant le tableau de la bourse, c'est absolument dément.
On lui a reproché d'ailleurs, dans les critiques de l'époque, il était écrit « c'est l'homme des grimaces ».
Alors, c'est pas des grimaces, ça l'énervait. C'est pas des grimaces, c'est ce qu'on appelait des têtes d'expression, des têtes de caractère. Donc il exprimait, d'ailleurs on a fait, au début de l'exposition, il y a un tableau interactif, qui j'espère qu'il sera très vite interactif pour cause de Covid, mais un petit tableau interactif où on voit toutes les formes de caractère exprimées par De Funès.
Alors on parle de Funès, on en parle comme ça, mais tout ça est illustré magnifiquement dans l'exposition avec des montages, des extraits de films cultes évidemment, d'autres plus rares, des costumes, des documents. Quelles sont vos plus grandes fiertés parmi les pièces que vous avez réussi à rassembler?
Alors,
Alain
Kruger, je crois que dans les pièces rassemblées, il y a la deux chevaux, hein. la Deux Chevaux du Corneau, avec tous ces boulons, avec les éléments explosifs aussi.
Alors attendez, c'est la vraie Deux Chevaux. C'est pas la reconstitution.
Ah non, pas du tout. C'est grâce à Stéphane Bern qu'il avait retrouvé dans un musée dans le Perche, et elle est venue jusqu'à nous, et elle a été réinstallée telle qu'elle existait.
Et donc, elle est en morceaux, et on la voit telle que sur la place du Panthéon, percutée par la Rolls de Funès dans le Corneau.
Et à propos d'explosion, il y avait aussi, chez Daniel Thompson, la machine infernale, qui est transformée en ballon de rugby dans
de la folie des grandeurs. Oui.
Et voilà, donc c'était sur la bibliothèque de Daniel Thompson, et c'est aujourd'hui à la Cinémathèque. Bon, il y a la robe de la folie des grandeurs, il y a des magnifiques dessins, et surtout, il y a des dessins de films qui n'existent pas.
Alors, je voulais vous en parler justement, oui, des dessins, c'est une pièce extraordinaire, des dessins d'un film aussi mythique que maudit, Le Crocodile, un film que Gérard Oury projetait de tourner avec De Funès à la fin de sa vie, et qui a un destin absolument incroyable. Évidemment, ce film ne s'est jamais fait. Il y avait, alors, dans la version originale, on va raconter l'histoire, dans la version originale, De Funès était épaulé par Aldo Macchione et Charles Gérard.
Charles Gérard, et il était le mari de la cantatrice Régine Crespin. Et donc, c'était un colonel, un tyran, comme il y avait des colonels en Grèce, ou des généraux, ou un général en Espagne. C'était une façon de se moquer des tyrans. Parce que moi, ce que je trouve fascinant chez De Funès, c'est qu'en fin de compte, il endosse toujours l'uniforme du patron, de l'industriel, du ministre, du tyran, là en l'occurrence, pour mieux s'en moquer. Parce que on y a toujours reproché son côté conservateur, mais c'était le contraire, c'était un provocateur.
Le Crocodile, donc, film qui ne s'est pas fait avec De Funès, pour cause évidemment de santé et de décès, qui a ensuite failli se faire avec Peter Sellers, qui est mort, avec Coluche,
qui est mort. Et donc Daniel Thompson dit que c'est un scénario maudit, elle ne voulait pas qu'on l'expose. En revanche, Jacqueline Fontré, la veuve de l'immense costumier Jacques Fontré, nous a confié ses trésors, c'est-à-dire ses croquis, ses dessins qui sont magnifiques, des uniformes de Funès, d'Aldo Macchione et de les magnifiques robes de Régine Crespin.
Mais le jour où on vous a montré ces dessins, qu'est-ce qui s'est passé ?
Le jour où j'ai montré à Thibaut Brutin, qui m'a accompagné pendant toute cette exposition, le dessin du diable, c'est-à-dire du Faust, de Funès en Faust, Notre-Dame s'est mise à flamber. Bon, et après, le Covid, enfin, vous voyez tout ce qui peut arriver dans l'enchaînement du crocodile.
Alain Crugère, qui n'est pas le commissaire Juve, mais le commissaire de l'exposition Louis de Funès à la Cinémathèque.
Chef.
On vous retrouve dans un instant.
Europe 1, 9h-10h. C'est arrivé demain.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec Alain Crugère, le commissaire de l'expo De Funès à la Cinémathèque. De Funès, Cinémathèque, c'est pas une association qui paraîtrait naturelle. On peut dire, Alain Crugère, que ça n'allait pas de soi.
Mais pour moi, ça allait de soi.
Oui, mais pour ceux qui composent la direction ou le conseil d'administration de la Cinémathèque.
Il faut croire que si, puisqu'on y est arrivé. Donc, non, moi j'étais très ému quand j'ai vu Costa Gavras accueillir Olivier de Funès. C'était vraiment une très jolie image, entouré par Serge Corbert, donc l'homme orchestre, le créateur de l'homme orchestre,
oui.
L'homme à qui Louis de Funès avait montré son propre film Un idiot à Paris, qui est une comédie savoureuse avec Jean Lefebvre et Bernard
Blier. La Cinémathèque française n'est pas le temple des comédies populaires, enfin, c'est vraiment la face inversée du cinéma.
Justement, c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir que pendant tout l'été, il va y avoir 40 films de Funès tous les jours dans la salle Henri Langlois. Moi, ça me réjouit.
Avec, dans cette expo, de nombreux extraits de films, des montages, des thématiques. Il y a une salle Mabiche, où on retrouve l'un des extraits qu'on va entendre dans un instant, dans cette série de dialogues, où il est question de tutoiement et de voussoiement.
Foutez-moi le camp, je te tape.
Vous avez tort de prendre ça à la rigolade, monsieur le maire.
Mais je ne prends pas ça.
On ne se tutoie plus.
Il ment.
Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais...
Tais-toi.
Non, écoute.
Je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein. Ça suffit, hein.
Comme tu veux.
Ah oui, justement, au sujet de comme tu veux, je voudrais te demander de ne plus me tutoyer.
Pourquoi?
Parce que dans un ménage comme le nôtre, qui a acquis une certaine aisance, une certaine classe, on ne se tutoie plus.
On ne se tutoie plus?
Non. On ne se tutoie plus jamais.
Plus jamais.
Plus jamais.
Comme vous voudrez. Bonsoir, monsieur.
Voilà. Bonsoir, madame.
Et le rire irrésistible de Dominique Davray dans Le Tatoué.
Ah, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir parce que j'adore cet extrait. Alors, les montages sonores ont été faits par Olivier Gonnor et Fred Benzakem. Ça, c'est Fred Benzakem. Et c'est, je vais dire, je me réjouis d'entendre ce rire de Dominique Davray qui traverse les couloirs de la Cinémathèque. C'est absolument merveilleux.
Ouais, c'est merveilleux. Donc, de finesse, à la fois un homme de gestes, on l'entend, et un homme de mots, puisqu'on peut savourer son comique à la radio, hein, sans voir les gestes. C'est un créateur, il faut le rappeler. Ça n'était pas simplement un acteur qui se prêtait aux fantaisies de ce que des scénaristes écrivaient pour lui ou des cinéastes imaginaient pour lui. C'était quelqu'un qui crée.
Je dirais presque que c'est même l'inverse. C'est-à-dire que là où ça s'est très très bien passé, c'est avec des gens comme Serge Corbert ou bien sûr avec qui il a fait ses meilleurs films, Gérard Houry, qui attendait de Funès de lui apporter aussi une matière qui allait toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un tel délire dans le jeu de Funès, il y a une telle folie que c'est ça, je veux dire, c'est ce côté d'une totale fantaisie, d'une totale démesure. Daniel Thompson racontait que dans la scène où il tombe dans le chewing-gum Yankee, ce chewing-gum vert, quand il tombe dans la cuve, il replonge alors que Houry ne lui demande pas. Et Houry attendait justement ces moments-là, ces moments où il allait trop loin.
On a parlé de ces personnages ronchons, colériques, égoïstes, paranoïaques, traits de caractère qu'il possédait aussi, en partie, peut-être pas à ce degré-là, mais en tout cas, dans cette exposition, il y a des extraits de la correspondance de Funès avec Alain Poiret, le grand producteur de la Gaumont, et puis aussi avec Gérard Houry, et ce sont des courriers extraordinaires, qui pour la plupart datent de la fin des années 60, et on voit un Funès exigeant, emmerdeur pour tout dire, avec ses producteurs, les cinéastes,
je pense
etc.
qu'exigence, c'est le bon mot. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait tellement galéré pour arriver là,
oui.
Qu'à partir du
qui
moment...
est célèbre à partir de 50 ans, hein, en gros.
C'est ça. Il avait tellement galéré avant, il avait tellement souffert qu'il n'avait pas envie de tout perdre. Et il savait que c'était possible.
Il avait l'angoisse de tout perdre.
Il avait une angoisse terrible. Drucker raconte qu'il n'avait jamais vu un homme aussi angoissé. C'est-à-dire c'est impressionnant de voir à quel point il avait des exigences parce qu'il voulait que tout marche de façon parfaite. C'est-à-dire qu'il était tellement perfectionniste qu'il pouvait même exiger des détails comme le prix d'un billet de cinéma dans une salle de province, comme la date de sortie d'un film. Mais...
Ou demander à son producteur de ne pas sortir un gros film concurrent, oui, mais... au moment où le sien était en
bien
train
sûr,
de triompher.
C'était
hein.
pas un caprice. C'était ouais. pas un caprice. C'était simplement une très grande vigilance et un très grand professionnalisme.
Oui. Enfin, c'est pas un client facile.
Ah, il le dit
pas
lui-même.
Un pensionnaire facile.
Voilà. Il dit lui-même, avec moi, vous n'aurez pas un pensionnaire facile.
Ouais.
Et il disait aussi à Pascal Thomas qui lui proposait de faire un film, avec moi, vous n'aurez pas de bonne critique.
Ah, alors les critiques. Il a été méprisé par la critique de son époque. Il n'a pas eu la reconnaissance de son vivant.
Il a eu de très bonnes critiques au début de sa carrière. Il est encensé au début de sa carrière, encensé
quand il est second rôle.
Quand il est second rôle. Mmh. Mais vous savez que les Français ont toujours un petite défiance à l'égard du succès. À partir du moment où il a un succès considérable, tout de suite, on le trouve beaucoup moins sympathique. Et puis surtout, je crois que les gens ont le tort de confondre ses personnages avec sa personne. On oublie que de Funès se moque des personnages qu'il incarne. Il n'est pas les personnages qu'il incarne.
De Funès, c'est nous en pire, écrivez-vous.
Oui, c'est nous en pire, c'est vrai, mais c'est nous en pire pour se moquer de nous, et aussi pour nous faire rire, et aussi parce qu'on est aussi tous les enfants qu'il est, qu'il incarne. C'est-à-dire, cette espèce d'esprit ultra joyeux qui traverse ses films et qui n'est peut-être pas le personnage dans la vie, c'est nous aussi, je veux dire, et c'est l'enfant que nous sommes. C'est-à-dire que s'il s'adresse aux enfants, c'est vrai, je pense que ça marche d'ailleurs même pas de 7 à 777 ans, mais ça marche à partir de 5 à 555 ans.
Et on est, comme vous le rappelez, on est à la cinquième génération de fans ou d'aficionados de Funès.
Et c'est pas fini.
Voilà, un punk en costard-cravate, ça c'est l'expression de Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque, en ouverture du catalogue consacré à l'exposition l'exposition Louis de Funès, l'exposition à partir du 15 juillet, donc à la Cinémathèque à Paris, métro Bercy. Allez-y, emmenez-y vos enfants. Il y a des jeux à portée de gamin.
Absolument, hein, il y a tout un parcours qui est fait pour les enfants. Et puis, ils pourront rentrer aussi dans la déesse de Fantômas. Enfin, il y a beaucoup d'occasions. Ils pourront se faire photographier avec le vrai gendarme. Hein, le vrai gendarme du musée Grévin.
Et puis, le catalogue Louis de Funès à la folie, avec des textes, des documents, des interviews aux éditions de La Martinière, en coédition avec la Cinémathèque française. C'est un très beau livre. Et puis enfin, vous en avez parlé, une grande rétrospective de Funès. Tous ces films projetés sur grand écran dans les salles de la Cinémathèque du 15 juillet au 29 novembre.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup Alain Kruger.
Merci.
Les poupons. Les poupons, extraits de la bande originale de L'Homme Orchestre, film de Serge Corbert, musique de Michel Magne, avec sur ce titre les voix d'Olivier et de Louis de Funès. L'Homme Orchestre, c'est la seule comédie musicale à laquelle il a participé. L'expo Louis de Funès à la Cinémathèque française à Paris, métro Bercy, à partir du 15 juillet. Merci de nous avoir suivis, avec la programmation de Marina Pruzès, la réalisation de Guillaume Vasseau et de Valentine Gélin. Je vous souhaite un bel été à l'écoute de l'information et des programmes d'Europe 1. Dans quelques minutes après les infos de 10h, ce sera le grand rendez-vous. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Ce matin,
François Bayrou, président du Modem, maire de Pau, avec l'arrivée de Jean Castex à Matignon, est-ce que le centrisme et le macronisme sont toujours autant en lien?
Très bonne émission à vous.
Merci.